Bonjour à tous et bienvenue dans la saison 2 des podcasts Team Quan. Dans ce premier épisode, je reçois Romain Barnier, directeur sportif du Cercle des Nageurs de Marseille. Un épisode sur fond d'excellence dans le sport, de management et d'olympisme avec une grande personnalité du sport français. Entre conseils, anecdotes et partage d'expériences, préparez-vous à être inspiré et à découvrir les secrets de ceux qui s'efforcent constamment de devenir les meilleurs dans leur domaine. Sans plus attendre, plongeons dans ce premier épisode consacré au sport de haut niveau et à la quête de la performance ultime.
Salut Edouard.
Oui, salut Romain.
On est ici au Cercle des Nageurs de Marseille.
Déjà merci pour l'accueil parce que le cadre est genre juste incroyable, donc j'avais pas meilleur spot pour relancer le podcast pour le coup.
Le cadre est incroyable et il reste magique après une vingtaine d'années à le côtoyer tous les jours, je te le confirme. Je suis donc Romain Barnier, et je suis directeur sportif au Cercle des Nageurs de Marseille. C'est le club de mon cœur puisque j'ai appris à nager juste derrière nous. La petite piscine qui se situe là, qui s'appelle le bassin à Lézard, qui est une piscine de 25 mètres. Et donc, c'est le lieu de mes premières activités sportives qui était la natation. Alors, j'ai commencé par du basket, comme toi. J'ai commencé par la natation.
Ah, je savais pas ça.
Et j'ai commencé par du tennis. Le professeur tennis a très vite dit, on a un problème de relation à droite-gauche. Je changeais la raquette de main, donc on m'a dit que ça allait pas et on m'a très vite dit qu'il se passerait rien. Mon père est un ancien sportif de bon niveau, quelqu'un qui a terminé 3e au championnat de France d'athlétisme il y a très longtemps, sur 1500 mètres et qui a fait du basket aussi, je crois en division élite. C'est dans un autre temps, c'était juste à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc j'ai un père qui tout de suite m'a mis dans ses activités de prédilection au basket, mais qui a très vite vu que malheureusement, dans le patrimoine génétique entre mon père et ma mère, il y avait eu un décalage et que je n'avais pas d'aptitude ni pour le basket ni pour le tennis. J'ai été jeté dans l'eau par une personne très importante pour la natation française, mais surtout très importante pour moi, qui s'appelle Joe Bernardo, qui est encore avec nous malgré ses 94 ans. Il souffre un peu, on pense fort à lui, mais c'est un des grands monsieur du Cercle des Nageurs de Marseille. Il a été double médaillé de bronze aux Jeux Olympiques, à l'époque de Jean Boiteux. Et il m'a appris à nager, il m'a dit, tu sais, il y a un truc pour toi, t'as du talent pour la natation, va au Cercle des Nageurs de Marseille, il y a des grands entraîneurs et tu vas t'y régaler. Et je suis tombé dans l'eau et autant je ne suis pas terrestre, autant je n'ai pas de qualité de coordination ou de rapport même à l'agilité en termes, comme toi tu peux le connaître chez les gens qui sont très athlétiques, très agiles, autant j'ai toujours trouvé dans l'eau un élément que j'arrive à comprendre, que j'adore, qui me fascine, qui me passionne. Et donc, je suis tombé dans la marmite à 5 ans. J'ai commencé à nager à l'âge de 11 ans ou 12 ans, je crois. Il se touche aussi au Cercle des Nageurs de Marseille. J'ai commencé l'aventure du bicotidien, c'est-à-dire qu'on s'entraîne le matin, on va à l'école toute la journée et puis on s'entraîne le soir. Dans certains sports, c'est comme ça. Et la natation, en fait partie. Et ensuite, mon parcours a évolué. J'ai grandi, je suis toujours resté à la natation. Un parcours de nageur qui était considéré comme nageur professionnel dans une fédération amateur. Donc, c'est du faux professionnalisme, même si je gagnais ma vie en nageant et ça m'a permis de sponsoriser mes études. J'ai été recruté par une université américaine, l'université d'Auburn, un des grands temples de la natation mondiale et américaine et mondiale. Et ça m'a permis de découvrir la natation en grand, une version beaucoup plus collective de la natation, des athlètes aquatiques, mais aussi athlétiques exceptionnels. Je crois qu'on était deux Français dans l'équipe, on était les deux seuls à ne pas savoir se matcher à 3-0-5. Tous les autres savaient se matcher, donc ça vous parle côté athlétique, c'est déjà un des premiers standards. Savoir se matcher, ça veut dire qu'on est un athlète déjà, ou en tout cas qu'on a des qualités athlétiques. Et donc, j'ai passé 10 ans aux États-Unis entre études et natation, entre dilemme parce que j'aimais la finance et que j'ai fait des études de finance, et mon amour inconditionnel pour la natation. Pour financer mes études, j'ai été entraîneur de l'équipe universitaire d'Auburn. Et ça m'a permis de financer. Quand il a fallu faire le choix entre la vraie vie et la meilleure vie, celle du sport, j'ai eu peur de partir. Et le président du Cercle des Nageurs de Marseille, Paul Lessia, qui est toujours président aujourd'hui, qui officie depuis 1990 dans le club et qui est vraiment un des grands piliers de la construction du club, m'appelle un jour et me dit, j'ai lu un article dans le journal L'Équipe, avec qui pourtant j'entretenais pas les meilleures relations à l'époque, et puis ça s'est continué ensuite, poursuivi ensuite. Il me dit, j'ai vu un article où tu hésites et tu voudrais rendre à la natation ce que la natation t'a offert, c'est-à-dire te permettre de créer des amitiés absolument incroyables, de découvrir des choses incroyables sur toi, de voyager, en tout cas d'être sur le chemin, de devenir un homme, en tout cas quelqu'un de bien qui peut aider les autres. Il m'a dit, viens le faire au CNM, on est l'endroit idéal. Et après quelques réflexions, j'ai abandonné toute une carrière qui s'offrait à moi dans la finance et les assurances pour venir sur la natation, manager du Cercle des Nageurs pendant un an. Il y avait un jeune garçon à l'époque qui n'était pas tout à fait connu, mais qui le deviendra ensuite, c'est Alain Bernard, avec son entraîneur Denis Auguin. Et on a commencé ensemble, alors on n'était pas tout à fait d'accord. sur le moment, c'était tendu. Aujourd'hui, quelques 15 années après, je ne sais pas qu'est-ce qu'il en reste au niveau de l'attention. Ouais, mais voilà. Et donc, Denis est parti avec Alain. On s'est retrouvé sans entraîneur. Mm-hmm. Le président m'a dit, c'est bien, tu as mis le bordel. Maintenant, il faut réparer ce bordel. Et donc, il faut que tu entraînes. J'ai dit, mais je ne suis pas vocation d'entraîneur. Je suis manager, j'aime la natation, mais je n'ai jamais fait, je ne sais pas faire. Il m'a dit, bah, tu vas te débrouiller ou en tout du moins, le temps que tu trouves un entraîneur, tu vas le faire toi. Et donc, j'ai commencé à entraîner. Donc, j'ai mis le bleu de chauffe, la tenue d'entraîneur de natation, le short, le t-shirt, même si je n'ai jamais trop su le faire. Les chronomètres, le sifflet, même si j'en avais pas non plus. J'ai commencé pendant 3 mois sans chronomètre. Mentors américains m'avaient dit, l'ennemi dans le monde du travail, c'est l'argent. Mm-hmm. On fait pour l'argent, on ne fait pas bien. Mm-hmm. L'ennemi dans le monde de l'entraînement de la natation, c'est le chronomètre. Chaque jour, tu donnes des repères et les athlètes s'adaptent en fonction de leur niveau du jour. Oublie un peu. Donc, j'ai commencé sans chronomètre, sans sifflet et sans tenue de sport parce que je n'en avais pas. Ça me faisait chier de me changer le matin et le soir 4 fois par jour. Donc, j'ai coaché en pantalon, chemise, ce qui me servait le reste de la journée. Et je retroussais les manches, un peu comme quand on va à la pêche. Et j'ai créé ma relation avec les athlètes sans chronomètre. Parmi ces athlètes-là, il y avait 2 garçons absolument extraordinaires qui ont marqué mon parcours d'entraîneur, Fabien Gillot et Frédéric Bousquet. Et donc, ensemble, on a commencé, on a repris le flambeau d'une aventure marseillaise qui a connu des hauts et des bas, comme sur 100 ans, c'est normal. Qui avait déjà gagné des médailles aux Jeux Olympiques, qui avait une structure administrative assez très saine, un savoir-faire pour faire venir des athlètes, un lieu absolument incroyable, iconique. Et puis avec Fabien Gillot et Frédéric Bousquet, on a commencé à faire de la perf. Et dans cette perf, on a créé, je crois, une espèce d'énergie nouvelle dans la natation française. Que j'avais emmené des États-Unis, le qualitatif avant le quantitatif. On était dans un sport de gros volume. On s'entraîne beaucoup. J'ai amené d'autres choses, être athlétique avant d'être aquatique, en faire moins pour le faire mieux. Beaucoup optimisé autour de la biomécanique, du geste parfait, de la recherche des singularités des athlètes. Je suis venu avec un espèce de package qui était un peu révolutionnaire pour eux. Et ça a forcément, sur les performances qui ont confirmé un peu ça, à la fois créé beaucoup de turbulences dans un monde qui n'était pas habitué avant ça. Donc, je ne me suis pas fait que des amis, mais ça fait partie du jeu quand on vient bousculer les codes et les normes. Et puis, il y a quand même pas mal d'athlètes qui ont vu cette dynamique-là et qui se sont dit, je veux en être. Okay. Et donc, très rapidement dans le sillage, Camille Lacour nous rejoint. Ouais. Grégory Mallet qui sera vice-champion olympique, William Ménard qui sera médaille de bronze au championnat du monde, et Laure Manodou et Florent Manodou ensuite. Et on a créé quelque chose autour d'une idée forte qu'on pouvait gagner à Marseille, on pouvait gagner dans un cocon, un doré, mais si on y mettait les heures passées dans le chlore, mais aussi beaucoup d'intelligence, beaucoup de partage d'intimité avec les athlètes, on est parti sur des choses fortes. On est parti sur le fait que si on mettait les meilleurs nageurs français ensemble, si on abandonnait un peu les égos et si on mettait plutôt le partage d'expertise entre experts, entre talentueux, on aurait une chance de battre tout le monde. Et pendant un moment, je crois qu'on a réussi parce que le symbole dont je suis le plus fier, de manière collective, pas moi, mais on a battu avec le Cercle des nageurs de Marseille un record du monde des équipes nationales. 4 nageurs du club, 4 Français. On a gagné au championnat du monde, les championnats du monde, avec 4 Français qui étaient 4 Marseillais du même club. Et en grand bassin, sur un 4 x 100 mètres 4 nages, on a obtenu le titre, la médaille de bronze au championnat du monde avec 4 Marseillais. Donc, on a gagné seul en étant les plus rapides du monde de l'histoire. On a gagné dans un championnat du monde petit bassin et on a obtenu une médaille dans un championnat du monde grand bassin. Toutes nations confondues, ça veut dire que c'était Marseille contre les États-Unis ou Marseille contre la Russie ou Marseille contre Marseille. Forcément, c'est les marqueurs forts à un moment donné. Donc, il reste ça, un diplôme avec ce record du monde qui nous regarde fièrement dans le bureau des coachs, qui est une espèce de modèle inspirant pour nous. C'est juste un marqueur de temps. Alors, le passé, c'est le passé, on s'en fout, le sport, c'est l'avenir. Mais il y a eu ces moments-là, cette équipe-là, ces choses-là. Donc, le cercle des nageurs derrière nous, c'est la mer, c'est le soleil, c'est un bassin de 50 mètres, un bassin de 25 mètres, une petite salle de musculation. C'est beau, pas très fonctionnel. C'est la piscine date de 1970, elle a 55 ans, il y a beaucoup d'escaliers, elle est construite au-dessus d'un parking. Un des premiers trucs que j'ai demandé quand je suis arrivé, je veux des caméras sous-marines, ça n'est partout aux États-Unis, c'était la norme. On m'a dit, si on fait un trou, ça va finir dans le parking. Le parking va finir là et puis ton eau, elle ira dans la mer. Et donc, on ne peut pas le faire. Pas de vidéo. Pas de ci, pas de ça, c'est la France. Beaucoup moins de moyens qu'une université américaine en termes de budget, même si on est des privilégiés du budget en comparaison d'autres associations sportives de natation en France. On est très, très loin de l'organisation de certains sports. Et pourtant, nos athlètes s'entraînent au moins aussi dur ou plus dur que n'importe quel sport. Quand je pense aux sports qui sont des sports plus rémunérateurs.
Tu tiens un sujet qui m'intéresse, tu vois, si on doit revenir à la genèse de tout ça. C'est un truc qui m'a toujours, intrigué dans un sport comme la natation, où c'est réputé comme, en fait, il faut beaucoup de volume, passer beaucoup de temps dans la piscine pour arriver à des résultats. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune garçon comme toi à l'époque, là je parle de toi en tant qu'athlète à l'époque, enfin à l'époque sans te faire trop vieux non plus, comment tu fais du basket qui est plutôt un sport ludique, etc. ou d'autres sports, ah ok, je vais dans une piscine, j'aime ça, du coup ça me plaît, du coup je continue et je vais vers la performance avec l'idée aussi que je c'est vraiment peut-être qu'un cliché, tu vois, mais à quel point ça peut être amusant pour un jeune, tu vois, d'être dans une piscine en fait toute la journée et s'entraîner le matin, aller à l'école le soir. Tu vois, c'est un vrai questionnement par rapport à ça.
C'est facile à répondre parce que c'est une des premières questions qu'on s'est posées en disant si on veut que les athlètes gagnent et fassent des choses exceptionnelles, il faut qu'ils le fassent avec en y mettant du sens. Chaque jour, pour y mettre du sens, il faut avoir une quête, il faut que ça se tienne, il faut qu'on y prenne du plaisir, la notion de plaisir. Qui aujourd'hui, il y a 15 ans, le plaisir c'était bien parce que comme tout était dur, quand on mettait un peu de plaisir, c'était bien. Aujourd'hui, l'athlète vient avec le plaisir en tête et on ne peut plus rien faire parce qu'au nom du sacro-saint plaisir, le plaisir est passé devant les standards minimums pour pouvoir progresser. Quoi. Donc, en fait, je dirais qu'il y a quelque chose d'exceptionnel dans ces sports d'endurance-là. C'est d'abord que quand un groupe se forme et qu'on partage une difficulté, à la fois la douleur et l'exigence et la notion de difficulté de ce sport-là, ça scelle des liens qui sont très, très forts entre les athlètes. Parce qu'on souffre ensemble, parce qu'on partage un quotidien avec des challenges qui sont... Et quand se passe ce moment où on est dans le doute, dans le questionnement par rapport à sa capacité à aller un peu plus loin dans l'effort, et qu'on va chercher dans les yeux de ses coéquipiers un peu de réconfort, et qu'on n'a pas envie d'être le premier à aller le chercher, donc cette notion d'orgueil, et tout ce mélange-là, donc cette camaraderie, et puis ce sens de, qui est à mon avis un des besoins primaires de l'être humain, d'appartenance, quoi. J'appartiens à qui, à quoi, à quel groupe. Et ça, c'est des gens qui sont comme moi, qui sont venus chercher. Puis après, généralement, ceux qui le font longtemps sont ceux qui ont un peu de talent. C'est pas facile de trouver une voie pour laquelle on a du talent dans la vie. Donc, quand on est bon quelque part, ça récompense. L'estime de soi est quand même bien récompensée. Moi, quand je suis tombé dans la piscine, il y a eu deux choses qui m'ont accroché. C'est un, l'eau, c'est magique. Et même si on voyage dans l'eau à 4-5 km/h et que ça ne paraît pas, les jours où on est bien, on a l'impression que tout son corps se met en adéquation, en fusion avec l'eau. Un peu comme, alors c'est pas tout à fait, mais un surfeur qui prend une vague.
Ouais, je comprends ça.
Finalement, il a juste quoi glisser sur quelques mètres. Et puis, il est mordu à vie et il va chercher toute sa vie à progresser là-dessus. Mais quand on ressent l'eau, quand on arrive, et quand par des mouvements bien connectés, tous alignés, synchronisés avec l'élément, on arrive à aller plus vite que la personne d'à côté. C'est pas qu'un effort physique. Donc il y a l'eau, il y a la recherche du geste, il y a la camaraderie, il va y avoir après les voyages, il va y avoir la relation avec l'entraîneur qui va devenir un mentor, qui va vous apprendre des choses au travers des exercices physiques qu'il vous demande. Il va y avoir tout ça. Et puis on additionne plein d'éléments qui sont finalement ce que je pense quand on pratique du sport de haut niveau, peu importe le sport, alors c'est fun de faire du basket. Et c'est fun de faire du waterpolo parce que j'ai la chance d'être témoin privilégié d'une équipe de waterpolo qui est parmi les meilleures du monde. Il y a 7 athlètes qui sont soit champions du monde, soit médaille olympique, soit champion olympique. Mais il y a un moment, quand on fait de la passe ou une séquence, c'est drôle. Quand le coach vous la fait répéter 50 fois ou 100 fois en vous gueulant dessus parce que la balle doit arriver de manière très précise, ça devient à peu près comme de la natation, c'est-à-dire de la répétition. Il y a des moments où il y a le jeu. Mais il y a des moments en natation où il y a des gammes et des exercices où on est libre, où le coach n'est pas sur votre dos, où on n'a pas le chrono, où on construit son modèle technique. Les gens aiment ça. Il y a des gens qui aiment faire du vélo toute la journée. C'est que ça répond à un besoin de l'être humain. Donc, alors, il faut une certaine catégorie. Ceux qui aiment les sports d'équipe, ceux qui aiment la balle et qui ont besoin de s'amuser 50% du temps, ils ne font pas carrière en natation. Mais celui qui aime bien se centrer sur lui, ressentir des choses, écouter, travailler son corps, qui aime la douleur, qui aime l'endurance, qui aime l'endorphine que ça crée après les séances. Un nageur, souvent, il vous dira qu'après sa séance du matin, quand il a plongé à 7h et qu'il sera à 9h15, 9h30, il a une demi-heure de bonheur volé à la vie. Parce que s'il a fait une bonne séance, il a juste ce sentiment de satisfaction d'avoir fait une bonne séance et que ça se suffit à lui-même pour être heureux jusqu'au petit-déj et qu'on tire là jusqu'à 11h. Et puis quand ça se répète 3-4 fois dans la semaine et puis que les autres fois, c'est pas si mal que ça, on est un nageur heureux. Quoi. Voilà à peu près si je devais faire un résumé peut-être.
C'est quoi une journée? Alors plutôt en jeune, là, du coup, c'est quoi une journée type à l'époque quand tu étais en formation, on va dire? C'est quoi? Donc, tu te levais le matin, tu allais t'entraîner 2-3 heures, tu allais à l'école, tu finissais l'école et tu repartais.
Le genre de type de nos nageurs, c'est qu'ils plongent vers 6h, 6h15.
Ouais, toujours tôt le matin.
Ils finissent vers 8h, 8h15, ils attrapent quelque chose à manger, ensuite ils vont en cours. Ils arrivent en cours vers 8h30 ou 9h quand on arrive à gagner un peu de temps sur la première heure.
Bien sûr.
Ils sont en cours jusqu'à 16h, ils reviennent, s'entraînent 2h, ils font 1 heure de musculation. Ensuite, ils rentrent à la maison, il est 8h, 8h30, ils font 1 heure ou 2 heures de devoir en mangeant. Et ils vont se coucher. Et ils enchaînent ça 5 jours par semaine. Et un week-end par mois, 2 week-ends par mois, il y a les compétitions. On part pendant 2 jours, on fait les compétitions. Il y a un peu de temps, un peu de repos à Noël, un peu de repos au mois d'avril, 15 jours de repos l'été, mais sinon c'est une espèce de machine à laver.
Mmh, ouais, bien sûr.
Et on met le programme au maximum et on fait tourner là, comme ça, sans que ça s'arrête pendant sur des journées qui sont en gros de 12-13 heures tous les jours.
Ouais, ça correspond un peu à l'image que j'en avais, c'est incroyable.
Et le paradoxe, c'est que ça fait souvent des bons élèves.
Ouais,
en fait, la fermeté du cadre fait que il bosse une heure ou une heure et demie, finalement, il bosse autant que les autres. C'est juste que il y a très peu de temps libre, donc la notion de plaisir, notamment chez les jeunes, d'apprentissage, de progression, elles sont essentielles. Un gamin qui progresse et qui va faire une bonne compétition, ça lui permet de mieux tolérer toutes ces périodes-là. Parce que les vacances scolaires, qui sont normalement un moment privilégié pour aussi se reposer, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'entraîne et qu'en dehors des entraînements, on met des cours particuliers pour les athlètes pour rattraper tous les cours qui ont été ratés le matin et l'après-midi. Parce qu'il y a, toute cette réserve-là qui est manquée pour pouvoir s'entraîner. Donc en fait, il n'y a pas la période de vacances. Donc c'est non-stop.
Ah, c'est un sacré panier. Et pour revenir à toi, alors, ton parcours, ça m'intrigue vraiment, pour le coup. Donc, un jeune Marseillais qui a fait un peu des sports, qui intègre le club ici et qui commence à nager, c'est quoi le move de partir aux États-Unis? Ça vient comment? Parce que, dans le basket, on peut le comprendre, etc., ou dans d'autres sports même, mais ça, c'est
ça vient d'un rêve. Moi, j'ai toujours eu le rêve américain, le rêve de parler anglais, le rêve de nager dans une université américaine. Les États-Unis sont modèle de référence en natation, c'est la meilleure nation du monde, donc les plus grands champions. Moi, quand je grandis, il y a Matt Biondi qui est le plus grand nageur, ils font tous 2 mètres, ils nagent incroyablement, et c'est la discipline dans laquelle je grandis. Donc je vois ces champions et je me dis, s'ils deviennent des champions là-bas, je vais aller voir comment ils s'entraînent, donc j'ai envie d'aller aux États-Unis. Et donc je fais ma carrière en France dans des endroits qui sont absolument extraordinaires, d'abord Marseille, ensuite un peu Monaco, un entraîneur qui avait entraîné au service des nageurs, ensuite Antibes dans un lieu de natation absolument incroyable en découverte. Et j'arrive au moment du bac et le deal avec mes parents, c'est tu peux faire de la natation, mais il y a un parcours d'études qui ira avec. Tu peux l'allonger un peu si tu veux, tu peux t'organiser, mais s'il n'y a pas d'études, on arrêtera la natation. Alors bon, j'avais atteint un niveau qui faisait que j'aurais… Ma mère était vraiment pro-études, mon père était pro-natation, mais respectait le contrat de ma mère. Et je crois à 17 ans, je suis en équipe de France, je suis champion d'Europe junior l'année d'avant. Donc il y a les Jeux Olympiques de 96. Je crois que pendant un an, je fais un peu année sabbatique sur les études en disant j'avais un peu d'avance à l'école, un an d'avance, donc je le sacrifie. Je ne me qualifie pas aux Jeux Olympiques en 1996 pour 1/100 sur une épreuve. Donc je vois les Jeux Olympiques passer. Et là, je me dis, il faut que je parte aux États-Unis. Et j'ai la chance d'être recruté par une université américaine et par un entraîneur absolument incroyable, David Marsh. Au travers de cette expérience, j'en ai rencontré une dizaine d'entraîneurs impressionnants, mais David Marsh, ça doit être une trentaine de médailles olympiques à son palmarès. Un grand gourou de la natation qui fait mieux que moi sans forcer en tant qu'entraîneur. Quelqu'un qui sent les choses, qui sent les programmes, qui sait quand il faut mettre de l'énergie, qui sait attirer, qui sait faire venir les meilleurs nageurs américains dans son université. Sachant que l'université, c'est quand même quelque chose d'incroyable en termes en termes d'organisation. C'est 2 bassins, je crois que c'est une salle de musculation qui fait 3000 m². C'est un staff médical incroyable. Il y a toute la recherche de l'université. C'est une sorte d'INSEP répété 300 fois. Bon, si tu fais du basket, tu connais la puissance des États-Unis et le sport, la relation intimiste que les Américains partagent avec le sport et notamment la promotion de la réussite par le sport, puisqu'on obtient des bourses aux États-Unis qui vous permettent de transformer votre vie. Si je suis un bon sportif, j'ai une bourse aux États-Unis, en université, et je coûte rien à mes parents. Donc tous les parents foutent leur gamin au sport parce que ça va financer les études, et que les études, c'est très cher, entre 30, 40, 50 000, 60 000, 100 000 dollars. Et donc par le sport, on ne paye pas ses études. Si on faisait ça en France, on verrait beaucoup plus de gens faire des.
Je suis d'accord. Et le process concret, c'est quoi? T'appelles les universités ou t'as un contact?
L'anecdote est assez sympa. Ouais. C'est que j'échoue à la qualification des Jeux Olympiques en 1996. L'été, je suis en vacances dans les pays scandinaves. Je te disais, le partage, les copains, la camaraderie. Je suis chez un nageur finlandais qui lui-même ne s'est pas qualifié aux Jeux Olympiques et qui est un très bon pote du monde de la natation. Je suis avec un autre nageur français, il me dit venez me voir, donc on va chez lui en vacances, on passe 15 jours en vacances, et un jour on croise un monsieur avec un polo de l'université d'Auburn, qui était une de mes universités fétiches, et je l'arrête et je lui dis, vous êtes d'Auburn, c'est génial, c'est l'école où je rêve d'aller, l'année prochaine je veux y aller. Il me dit, buvons un café. Et donc on s'assoit, il me dit, mais qu'est-ce que tu trouves d'Auburn? Et je dis, il y a cet entraîneur-là qui est exceptionnel, ce programme, puis j'ai lu les valeurs, j'adore. Et il me dit, écoute, j'ai oublié de te le dire depuis qu'on discute, mais je suis le président de l'université en vacances et je fais un tour de la Scandinavie. Je vais appeler David Marsh quand je rentre, et crois-moi, il va te faire venir à l'université. Les vacances se terminent, cette anecdote, elle est marquante pour nous parce que c'est quelque chose qu'on a, ouais, on avait ciblé 4 ou 5 universités, mais celle-là, c'est l'université de choix. Je reçois un appel de David Marsh qui me dit apparemment, je suis obligé de te recruter. Mmh. Alors, je te préviens, par contre, il m'a imposé ça. Par contre, les bourses, ce sera non. Mmh. Mais bon, j'ai regardé ton parcours, c'est pas mal quand même, mmh. finalement, il m'a mis sur une piste. Donc, je te propose ça. Et si tu fais des résultats après la première année, tu auras une bourse. On a fait les résultats, on était deux Français, on a fait les résultats, on a eu une bourse. Et on a financé toutes nos études jusqu'au master's grâce à ça, Lionel Moreau, qui était mon coloc là-bas et qui aujourd'hui est entraîneur de l'équipe d'Aix-en-Provence, mm-hmm. qui est resté beaucoup plus longtemps que moi là-bas. Il a entraîné là-bas pendant 20 okay. ans et là, il est revenu. Comme moi, on est de la même région. Ouais. On s'est entraîné toute notre vie ensemble en tant que jeune Français. Mm-hmm. Il a lui aussi gagné les NCAA, les championnats universitaires américains en tant qu'athlète.
Okay.
Fait marquant. Et donc, voilà, deux jeunes Frenchies, on est arrivé là-bas en dehors d'avoir notre accent français qui nous permettait de bien nous débrouiller avec les filles à l'époque.
Ah, j'imagine, ouais.
Il y a longtemps... et je m'appelais Pierre et il s'appelait Henri parce qu'il y avait des R et que ça permettait aux filles de mettre l'accent français quand on.
L'histoire est quand même incroyable de ça. Enfin, c'est en plus une université qui.
Synchronicité.
C'est fou ça, cette histoire.
Le principe de synchronicité, être au bon endroit au bon moment.
Ouais,
et vouloir quelque chose tellement fort que tu attires la possibilité que ça arrive.
Et donc le parcours aux États-Unis, on va essayer d'avancer un peu dans le temps. Et donc la carrière d'athlète pro. Les Jeux Olympiques en tant qu'athlète, ça c'est un truc que j'imagine. Bah, du coup, en plus, tu partais d'un échec, j'imagine, puisque tu me dis que tu te qualifies.
Premier échec, ensuite 2000, je me qualifie. Mm-hmm. C'est probablement le plus beau moment de ma carrière, mm-hmm. les qualifications. Ça se passe à Rennes, je nage 49 secondes, 21 de mémoire, mm-hmm. ce qui représente, je crois, à l'époque, la 11e performance mondiale de tous les temps. Donc okay. je m'approche des 10 meilleurs de tous les temps dans l'épreuve Rennes du 100 mètres nage libre. Et je dois être 5e, 6e sur les rankings mondiaux quand je me présente au JO. Une période de préparation un peu compliquée, le début d'une forme de mésentente avec la fédération. Mmh. Le dialogue passe pas avec le DTN de l'époque, Claude Fauquet, qui m'impose de m'entraîner en France alors que je suis devenu plus américain que français, notamment dans mes modes de préparation. Ouais. Et je vais m'entraîner à Font-Romeu, qui est un endroit exceptionnel, mais en altitude. J'arrive d'un programme où on fait du cali, où on fait beaucoup de travail athlétique. Je retourne dans un programme où on refait du volume, on fait de la montagne à quelques mois des JO. Les JO se passent mal. Mmh. Je me prends le bec avec le DTN assez fort. Je me retrouve en commission de discipline. Je me prends 6 mois avec sursis.
Okay.
Je passe des JO difficiles sportivement, très intéressant humainement dans l'équipe. Je me régale avec l'équipe de France olympique. On passe la Fédération française de natation et l'équipe de natation. On passe des JO très difficiles. Il n'y a qu'une médaille d'argent. Roxana Maracineanu, la seule médaillée. L'équipe de France passe à côté de ces JO. Mm-hmm. En 96, c'était le zéro pointé. En 2000, il n'y a qu'une médaille. On a un DTN à l'époque, un directeur des équipes de France DTN, Claude Fauquet, très ambitieux. Mm-hmm. Et je me retrouve vraiment dans un... difficile les premiers JO de 2000. Mm-hmm. Derrière, on va jusqu'en 2004. 2004, j'ai 28 ans. J'approche de la fin. C'est-à-dire, il faut faire le coup en série. Des JO, ça se passe bien parce que je crois que je suis dans la dernière série, que je gagne la dernière série dans laquelle il y avait Popov.
Okay.
Si je ne me trompe pas, s'il était encore là, et je suis quasiment sûr 2004. Mm-hmm. Donc je gagne cette série, je suis premier de la série, la dernière série, donc les circulaires, ce qu'on considère les séries majeures. Et je crois que je suis qualifié 7e le matin, donc avec une possibilité d'accéder à la finale, qui est déjà un premier Graal pour moi. Mm-hmm. Et puis le soir, en demi-finale, je finis 10e et j'échoue à deux places de la finale. Ce qui reste un bon résultat sur l'ensemble de ma carrière. Mais ce qui reste après coup, une forme de déception dans laquelle je ne me suis jamais vraiment plongé, puisque après 2004, on est en 2005, c'est les championnats du monde. On fait une finale, on finit 4e ou 5e aux championnats du monde avec l'équipe de France. En 2003, on avait fait médaille de bronze au championnat du monde avec le relais 4x100 mètres nage libre avec Frédéric Bousquet et Fabien Gillot en coéquipier, Julien Sicot. Donc j'ai une médaille en relais, ce qui a toujours occupé une place particulière pour moi, le relais, le collectif. Je crois que je n'ai jamais su aussi bien défendre. J'ai toujours su mieux défendre les intérêts des autres que les miens. Donc 2005, j'arrête la carrière et une semaine après, je suis au service des nageurs de Marseille en tant que manager. Ouais. Donc en fait, j'ai pas eu vraiment le temps de cette petite mort que les sportifs appellent. Ouais. Je me suis retrouvé, ce qui est compliqué pour beaucoup de sportifs, le temps de la reconversion. En fait, en 2004, après les JO, j'ai décidé de faire ma période de réflexion pour trouver ma voie. Donc est-ce que je vais dans la finance, est-ce que je vais vers la natation? C'est pendant cette année-là que le président m'a appelé. Je faisais plein de compétitions. J'ai eu pour entraîneur un certain Franck Esposito pendant 4 mois. Parce que comme j'étais finalement inadapté pour des groupes d'entraînement, parce que j'allais faire des appels d'offres, j'allais répondre à des appels d'offres pour des boîtes, pour essayer de postuler pour un job, changer de ville. Donc j'allais une fois à Tampa, j'allais une fois à Atlanta. J'ai voyagé un peu dans tous les États-Unis. Je revenais en France pour voir ma famille parce que ça faisait 9 ans que je n'étais pas rentré. Mmh. J'ai fait un peu globe-trotteur sur des compétitions là où je pouvais me faire inviter pour aller faire des compétitions pour financer. En même temps, réfléchir. Et je me suis quand même qualifié par chance au championnat du monde. Sur le fil du rasoir, je me retrouve au championnat du monde, mais je savais que mon... Alors, j'ai terminé le championnat du monde 5 jours et j'ai attaqué directement le boulot. Le championnat du monde était en août à Montréal et en septembre, je débarque au Cercle des nageurs de Marseille avec l'idée que je possède une carte verte. J'ai un billet en finance, j'ai une boîte qui me veut, qui me voudra dans 1 an ou dans 2 ans. J'ai besoin de revoir ma famille. J'ai envie de tenter l'aventure natation. J'ai peur de perdre l'intensité des émotions et les cycles d'émotions qu'on peut connaître. C'est-à-dire, on s'entraîne pendant une période, on vit des compétitions internationales, on vibre, on pleure, on rit, on se remet en question. Et j'ai dit, je fais 1 an ou 2. Donc, je fais 1 an manager. Ça se passe mal avec Denis et Alain, ils s'en vont. J'enfile le costume d'entraîneur. Je commence à entraîner et je pense que c'est 3 ans plus tard. On prépare les JO. J'ai 3 athlètes qui font une médaille aux JO en 3e année de coaching. Et là, je me rends compte qu'en fait, j'ai trouvé ma vocation et que c'est même beaucoup plus fort que celle d'athlète. Et je réponds à des besoins auxquels je n'avais pas réussi à répondre en tant qu'athlète, c'est-à-dire de gagner, devenir le meilleur d'une compétition internationale, réaffirmer l'estime de soi d'une autre façon en tant que coach. Et du coup, en fait, d'une déception qu'aurait pu être d'abord la peur de quitter un monde, d'avoir une certaine image, mon image se retrouve renforcée dans le milieu dans lequel j'évoluais déjà. C'est-à-dire que la bascule a été tellement rapide que je me retrouve au bord du bassin, plus en tant qu'athlète, mais en tant qu'ancien athlète qui est entraîneur, qui a des athlètes exceptionnels qui l'entraînent. Et donc, le regard qu'on portait sur moi en tant qu'athlète est toujours le même. Ce qui avait changé, c'est que j'avais pris 5 à 10 kilos. Ce qui avait changé, c'est que j'aurais plus osé me mettre en maillot en 3 ans parce que mon après-carrière fait que j'étais moins sportif. Mais par contre, pour la partie... j'ai l'impression d'être utile ou j'apporte quelque chose à la natation française ou je suis dans l'élément avec lequel les visages de mes concurrents sont connus, c'était quasiment les mêmes. Et il y avait des combats à mener contre des coachs qui étaient exceptionnels et qui le sont toujours. Michel Chrétien, qui est un des grands coachs français. Il y avait Fabrice Pellerin qui était en montée. Il y avait Denis Hauguin, il y avait Lionel Orter. Et je me suis retrouvé dans ce Richard Martinez, Philippe Lucas. Et je me suis retrouvé dans plein de batailles contre eux, indirectes, par le biais des athlètes qu'on entraînait. Et donc, ça a tout de suite rempli plein de choses.
Et en tant ce move-là d'athlète entraîneur, donc il prend un peu de temps, tu passes par manager, etc. Ouais. Quand tu arrives en tant qu'entraîneur, c'est quoi ta méthode d'entraîneur un peu? C'est d'arriver avec les méthodes que tu as vues aux États-Unis, j'imagine? Ou tu fais un mix de ce que tu as vu en France et tu arrives à… Ça a été quoi un peu ta construction d'entraîneur, on va dire?
C'était d'arriver avec la confiance que dans mon programme, il y avait des choses qui étaient en avance. Il y avait 5 ou 10 ans d'avance sur ce qui se faisait en France parce que… Pas parce que les Français sont plus cons que les Américains, mais parce que le système universitaire américain est tellement vertueux qu'il attire des gens toujours plus brillants, des entraîneurs, des anciens nageurs, qu'à leur disposition, ils ont des athlètes fabuleux, donc ça leur permet de toujours être cherché à modéliser. Et que des fois, quand on est Français, il y a un extraordinaire entraîneur caché là, en ce moment à Nice qui a fait briller la France en 2012 au JO, Fabrice Pellerin. C'est très aliénant de s'entraîner autant. Et que je crois que pour gagner, il faut être capable à un moment donné de casser les règles et casser la norme et même prendre possession d'une chambre d'appel. Alors, pour ceux qui nous regardent, une chambre d'appel en natation, c'est une petite pièce comme le vestiaire pourrait l'être dans les sports collectifs. C'est une pièce où on vient parquer les athlètes pendant 15 minutes avant la course pour des besoins organisationnels, c'est-à-dire que tous les athlètes sortent en même temps. Mais c'est aussi le lieu de tous les enjeux. C'est le lieu où on va mettre les 8 meilleurs du monde pendant 15 minutes avant une finale olympique. Donc, il se passe plein de choses. Ouais. Et il faut de la force de caractère, il faut de l'ego, il faut un peu de folie à ce moment-là pour se dire que les 7 mecs qui sont forcément au moins aussi forts que toi, s'ils sont en finale olympique, même parfois plus forts, tu as quand même envie de leur casser la gueule chronométriquement. et donc, il ne faut pas être trop poli. J'ai regretté que Fabien Gillot, qui est un extraordinaire champion, ait été peut-être un tout petit peu trop bien élevé par ses parents.
Je comprends ça.
Il était un lion pour ses coéquipiers en relais, il était moins pour lui, ça ressemblait un peu à moi dans nos caractéristiques et je préférais parfois le côté un peu compliqué ou irritant que pouvait avoir Camille Lacour dans sa personnalité désinvolte et un peu anti-norme. C'était extrêmement utile quand arrivait une finale où même lui ne se sentait pas complètement en forme d'aller… voilà, on en parlait avec Michel Chrétien ce week-end, mais en 2011 à Shanghai, Camille Lacour devient champion du monde du sando ex aequo avec Jérémy Strabus. Moi, très clairement, je sais que ce jour-là, Jérémy était plus fort que Camille, chronométriquement. Mais qu'en termes de maîtrise des éléments du très haut niveau, de la pression de la finale, il n'a pas vu Il n'a pas su regarder que Camille Lacour était en méforme sur cette compétition. Mmh. Il était resté dans l'image qu'il avait eue de l'année d'avant d'un Camille Lacour stratosphérique. Ouais, et en fait, il était content d'avoir un mec qui était beaucoup plus fort que lui l'année d'avant, d'être aussi fort que lui, alors qu'il était plus fort. Mmh. Et je crois que c'était une chance pour Camille. Et que s'ils n'avaient pas été dans la même équipe et qu'il n'ait juste pas regardé, je pense qu'il aurait perdu cette course. Mmh. Donc voilà, on a besoin de ça. On a besoin que les mecs soient féroces, sauvages un peu à certains moments autour de la perf, respectueux de la règle, mais pas de la norme.
Moi, je pense que ça s'applique de toute façon globalement à tous les sports de haut niveau. Je pense qu'il faut se brainfolie
Les game changers en basket, celui qui va te faire gagner le match, c'est pas forcément le plus facile à gérer le reste de l'année.
Souvent, c'est ça.
Donc en fait, quand j'en ai un avec un gros ego, je me dis qu'on a les constituants d'une possible réussite.
Je comprends ça.
Voilà, un mec qui aurait un super talent physique, mais qui apprend pas très vite et qui a pas beaucoup d'ego, je me dis qu'on va avoir du mal à gagner une médaille d'or aux Jeux Olympiques.
Et parfois, justement, dans ta gestion, ça c'est aussi un vrai métier, le métier d'entraîneur pour le coup, dans ta gestion de l'ego, parce que avoir de l'ego, je pense, c'est excellent, comme tu dis, mais sur la gestion de l'ego par rapport à ton métier d'entraîneur, j'imagine que ça n'a pas dû toujours être très très simple, ça.
Bah, c'est pas le plus compliqué, ça.
Ouais, ça va.
Bah, à partir du moment où tu mets une quête commune, une mission et qui a du sens, et que tu es juste dans ton organisation et dans ton traitement des choses. Quand tu dis à quelqu'un que son ego pose problème et que tu sais lui expliquer pourquoi, que tu sais le démontrer, que tu sais lui dire que tu ne l'accepteras pas, mais que tu ne l'accepteras pas pour plusieurs raisons, la protection du collectif, généralement, même les plus chiants, finalement, ils sont prêts à faire. Si c'est bien expliqué, si c'est pour un but, si c'est pas pour lui faire du mal à lui, s'il y a un moment donné, quand tu lui parles, il se dit pas, tiens, il préfère l'autre. Parce que ce qui était difficile, c'est quand j'ai deux athlètes sur la même épreuve au même niveau, tu vas dire à un, ce que tu fais là me pose problème. D'accord. Je ne veux pas qu'il pense que je privilégie l'autre, que j'essaye de l'embêter dans sa performance, parce qu'il faut vraiment avoir en tête, avoir réussi dans la relation, ne pas avoir de créer des biais cognitifs entre toi et l'athlète qui permettraient de penser que, en fait, il a choisi son candidat, il a choisi son poulain, et donc il ne veut pas de moi. Et donc dans ces cas-là, il n'écoute pas, et dans ces cas-là, on va renforcer les problèmes. Mmh. Alors que le but est l'inverse. Donc il y a tout un travail sur la culture à faire. Il faut que ce soit juste, il faut que ce soit bien fait et il faut que ce soit cadré. Ouais. Ça, j'accepte. Mm-hmm. Quand le mec fait un truc où tu as dit que tu n'acceptais pas, tu te rappelles ? Bon, c'était il y a 6 mois, tu as dû oublier. C'est vrai que. Mais ça, j'accepte pas. Et ça, tu l'as fait. Mm-hmm. Ça, si tu le refais, voilà les conséquences. À partir de ce moment-là, hop. Et après, quand tu lui dis putain, mais je l'adore ton ego, il me fait chier depuis 3 jours, mais le reste du temps, je l'adore. En fait, je t'en parle pas depuis 3 jours alors que ça me dérange. Parce que je sais que je ne veux pas abîmer, je ne veux pas changer cette partie-là de toi dont je vais avoir besoin en course. J'ai besoin que tu me la changes au quotidien. Alors, j'aimerais bien que tu me trouves, toi, la solution au problème que je rencontre là. Et généralement, ils aiment bien quand c'est
eux. Ouais, la méthode est intéressante pour moi. Et ça, tu vois, ça fait quoi un truc là qui est un sujet que je trouve hyper intéressant. Tu parles beaucoup de collectif. Alors, je sais que tu as cette notion aujourd'hui water polo, tu as aussi cette notion relais qui est aussi un sport d'équipe. Mais malgré tout, la natation reste un sport individuel. Je suis vraiment assez intéressé par le côté justement collectif dans un sport qui est si individuel où en fait c'est toi ta perf, comment tu vas faire cette course et faire le meilleur chrono versus on est en équipe tous les jours malgré tout, on fait du relais peut-être des choses comme ça qui fait qu'à la fin en fait c'est un sport individuel dans le collectif. Alors c'est pas un sport en tant que tel, tu vois, il y a vraiment une notion d'équipe que tu mentionnes beaucoup. Je trouve ça hyper ça m'intrigue pas mal.
Sur les fondements de tout ça, je ne crois pas qu'il puisse y avoir de projet extrêmement ambitieux en sport sans la constitution d'une équipe. Ou au moins pour un athlète individuel de constituer un staff qui va lui permettre de créer cette performance. Et donc, il y aura, quoi qu'il arrive à un moment donné, un endroit, des notions d'équipe. Pourquoi ? Parce que quand l'athlète va être confronté à ses propres limites, il va avoir 2 choix. Et que souvent dans ces choix-là, il va être dicté par certaines angoisses qu'il ne maîtrise pas. C'est-à-dire, est-ce que j'en fais trop ? Est-ce que je le fais bien ? Et donc ça, il faut qu'on transfère cette angoisse-là à quelqu'un qui, lui, va faire ce travail dessus et réfléchir sans avoir les sensations, sans avoir les ressentis. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas en train de souffrir, mais est-ce que je le fais trop souffrir ou pas ? C'est déjà différent. Donc, il y a la notion, dès qu'il y a plus de 2 personnes, 3 personnes, il y a une équipe. Et donc, à partir du moment où il y a du staff, etc., ça commence en équipe. Donc, je ne crois pas à la notion individuelle. Maintenant, ça étant dit, il y a différentes formules autour de l'équipe. Un sport individuel à vocation individuelle à la fin ne sera jamais comme un sport collectif. Mais dans l'approche, ce que je trouve assez paradoxal et assez intéressant, c'est que dans les sports individuels, comme c'est trop dur de le faire seul, on invoque le collectif en permanence pendant toute l'année
pour nourrir
la force d'un athlète. Et à la fin, l'athlète qui est supposé agir seul, puisqu'il est, lui va vous dire toutes les raisons qu'il va essayer d'accumuler pour ne pas être seul et ne pas prendre seul la responsabilité, ouais. la possibilité ouais. de l'échec. Ouais. Et donc, souvent, quand vous avez un athlète qui finit, qui fait une grande performance, il dit « mais c'est parce que mon entraîneur m'a dit ça, c'est parce que mes coéquipiers m'ont poussé là, ouais. c'est parce que mon concurrent, je l'ai fait parce qu'il était là. » Souvent, il dit « mais j'ai pu le faire parce que lui est tellement fort que pendant l'année, j'ai eu peur qu'il me batte, donc je suis devenu ouais. ça. » Donc, il a fait finalement équipe ouais. avec quelqu'un de son niveau de talent pour ouais. emmener l'épreuve dans un nouveau ouais. niveau. Et qu'à l'inverse, par contre, quand on manage un sport co, mm-hmm. il y a toute la relation entre les athlètes, mais comme on n'a pas assez de temps, mm-hmm. parfois pour l'individu, parce qu'il faut mettre beaucoup de temps, d'énergie dans l'équipe, l'entraîneur me parle toujours, en water polo, là, de lui, il manque ça, mm-hmm. et on ne peut pas tout faire pour tout le monde. Mm-hmm. Ces espèces de frustrations individuelles qui sont permanentes. On s'occupe au maximum de l'équipe, et quand on arrive à la fin, on sait une chose, c'est que l'équipe va se mettre à la disposition d'une seule personne, on ne sait pas quand, souvent c'est le concours de circonstances imprévues que peuvent être un grand match. Mmh. Il y a un athlète qui va faire gagner. Il y a un moment où on gagne contre ouais. l'équipe et c'est souvent dans les mains d'une personne. Mmh. Donc tout est collectif au départ avec une frustration sur l'individu et c'est l'individu qui fait gagner l'équipe à la fin. Mmh. Parce qu'une équipe, elle gagne ensemble, mais il n'y a qu'un seul mec qui met le dernier but, mmh. il n'y a qu'un seul mec qui met le dernier panier, mmh. il n'y a qu'un seul mec qui est dans le moment où les deux équipes mmh. s'affrontent, mmh. Ouais. c'est celui qui fait basculer pour son équipe. Et en individu, au moment où il a très très mal, au moment où il a le plus de doutes, il va puiser sa force dans son préparateur mental, son entraîneur, ses mmh. coéquipiers. Donc il va chercher dans l'équipe et l'équipe va chercher dans l'individu. Ouais, comment... Donc c'est plein de paradoxes mmh. qui sont à mon avis ultra complémentaires, ouais. sur lesquels il faut à mon avis réfléchir. Quand je suis un entraîneur individuel, il faut aller passer un peu de temps dans les sports co. Quand mmh. je suis entraîneur de sport co, il faut aller passer du temps dans les sports individuels parce que à s'occuper tout le temps de la cohésion sociale et opérationnelle de son équipe, mmh. on oublie la progression de chacun des individus à l'intérieur de l'équipe.
Et toi, dans ton parcours d'entraîneur, du coup, bon, tu es passé de natation à waterpolo. Tu prends autant de plaisir dans les deux façons d'entraîner ?
Ouais, en fait, mon plaisir, il est surtout dans la relation avec l'athlète.
Okay.
Donc, j'ai connu une période où les athlètes étaient impliqués plus qu'à 100% dans leur projet. Mmh. Vraiment, la quête, elle était mmh. pour la santé. Là, aujourd'hui, on a une équipe de waterpolo qui est absolument remarquable, qui est parmi les meilleurs du monde, avec des athlètes champion olympique, mmh. des athlètes champions du monde, des athlètes qui visent une médaille olympique, une équipe de France qu'on peut aider puisqu'il y a 6 ou 7 athlètes qui s'entraînent là, qui seront ouais. à Paris pour l'équipe de France. Donc il y a cette mission-là. Donc le plaisir, il est là. Il est de se dire que chaque jour, par une énergie positive, par un engagement, par quelques petites compétences que j'ai dans mon domaine de la natation, mon domaine de l'eau, je peux venir apporter des toutes petites choses. Mmh. Je ne suis pas l'élément essentiel de cette équipe, mais en sport de haut niveau, on n'a pas besoin d'être l'entraîneur général pour faire gagner l'équipe. Hein. Tout le monde doit contribuer.
Clairement.
Et j'ai besoin de personnes pour savoir que si je mets de l'énergie, on aura plus de chances de réussir que si je suis simplement spectateur. Il faut juste la doser bien. Mm-hmm. Il faut la mettre au bon moment. Il faut respecter le travail de l'entraîneur général. Il faut distiller les bons. Voilà. Il faut être un appui, un soutien permanent. Il faut apprendre à connaître la philosophie globale de son équipe. Il faut voir comment elle se comporte. Quand ça va bien, quand ça va mal, mmh. tout, hein, comme avec un athlète. En fait, on parle à une équipe comme on parle à une personne, mmh. mais on peut parler à une équipe comme on parle à une personne que lorsqu'on a compris exactement les contours de l'équipe, comment elle est faite, les différents traits de personnalité, finalement, mmh. toutes les complémentarités de mmh. tous les athlètes, ça devient une personne. Il faut la comprendre. On peut faire des erreurs énormes. Les gens vous disent que c'est beaucoup plus facile d'avoir une médaille avec un athlète très talentueux. Mmh. La grande difficulté d'entraîner un athlète très talentueux, c'est qu'il faut trouver. Mmh. Sur quel levier ouais, choisir, sur quel levier on va chercher l'ultra talent. Mmh. Et puis surtout, il faut vivre avec la possibilité qu'on a plus de chances de gâcher que de faire progresser. C'est-à-dire qu'un ultra talentueux, il est aussi dans l'obligation de gagner, donc mmh. on vit tous les jours sous pression. Ouais, alors quand on a quelqu'un d'un peu moins talentueux, peut-être qu'on. Voilà, c'est mmh. moins de pression. Ce sont juste des choses différentes mmh. à aborder différemment.
Et en tant qu'entraîneur et même athlète, dans ton concept même de fixation d'objectifs, j'aime bien cette idée, je trouve que ça reste un moteur dans le sport de haut niveau, où souvent on a des buts lointains, je vais être champion olympique, je vais être champion de France, peu importe. C'est quoi ? Est-ce que tu as pas des secrets, c'est pas le mot, mais plutôt des méthodes que toi tu as utilisées pour arriver à justement désacraliser le côté « ok, je veux être champion olympique » et sur un process de 1, 2 ans, qu'est-ce que je vais mettre comme moyen en place pour arriver, tu vois, en fait, se fixer des objectifs qui soient ambitieux tout en gardant les pieds sur terre et se dire « ok, c'est quoi le chemin pour ça ?» J'imagine que tu as peut-être des…
Tu as dit quelque chose qui est…
Des petits tips par rapport à ça.
Je crois, et tu étais lancé sur poser mmh. une question et donc tu as dit quelque chose qui me marque. Mmh. Tu as dit désacraliser le fait que quelqu'un veuille devenir champion olympique. Mmh. À l'inverse, il faut sacraliser
okay.
celui qui vient de voir et qui dit je veux devenir champion olympique. Mmh. Parce que dans les athlètes que j'ai rencontrés, il y en a un qui est devenu champion olympique, mmh. Florent Manodou. Et quand il arrive au Cercle des nageurs de Marseille, mmh. que je lui dis c'est quoi tes ambitions profondes, il m'a dit être champion olympique.
Okay.
Et il portait une vision et un rêve. Et il l'est devenu. Et j'ai un autre athlète. Niveau de talent à peu près égal. Mm-hmm. Difficile de juger les talents, surtout que ce sont des athlètes différents, mais deux athlètes où quand on les voit dans l'eau, on se dit wow, « waouh, qu'est-ce qui se passe ?» Mm-hmm. Comment l'être humain peut se mouvoir dans l'eau comme ça. Okay. Camille Lacour, mm-hmm. quatre fois champion du monde, mm-hmm. détenteur de plein des meilleures performances mondiales de tous les temps en textile, et qui m'a dit le jour où il arrive au cercle, je vais devenir le meilleur nageur du monde. Et il est devenu. Mm-hmm. Il n'a jamais gagné le titre olympique. Donc, je crois que c'est vraiment sacré mm-hmm. et c'est vraiment très différent de vouloir être le meilleur du monde et de vouloir être champion olympique. Okay. Deux activités différentes. Mm-hmm. Alors, on peut vouloir être le meilleur du monde et être champion olympique. Ouais, ça veut dire que dans l'espace-temps, mm-hmm. Si on veut être que champion olympique, on s'en fout des autres années. Si on veut être le meilleur du monde, ça veut dire qu'on veut, sur une période où tout le monde est là, mm-hmm. ça peut être les champions du monde, ça peut même être un meeting. C'est-à-dire qu'on peut battre un record du monde dans d'autres événements et dire se considérer le meilleur du monde pendant une période donnée. Ouais, et chevillé au corps, Florent avait le rêve olympique. Donc, si un athlète vient et qu'il me parle de ça, mm-hmm. ça va être mon moteur de démarrage. Après, si je vois que l'athlète n'a pas forcément le talent pour y arriver, il y aura un autre travail à faire. Mais enfin, je considère qu'à partir du moment où l'athlète a les plus hautes ambitions, mm-hmm. quoi qu'il arrive, on va pouvoir construire des choses qui sont absolument fabuleuses dans la construction d'objectifs, même si on peut lui dire que ben, « Ok, ça, c'est ça, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que pour arriver à ça, on doit créer un chemin avant ça.
Ouais. »
Et que dans la création de ce chemin, on va se fixer l'objectif et on va synchroniser tous les deux sur cet objectif parce que moi, c'est ça qui m'anime. Aujourd'hui, tu es là, tu veux aller là, mais avant ça, moi, je veux aller là. Mmh. Est-ce que ça t'intéresse ? Si ça t'intéresse, voilà comment on va le faire. Mmh. Et moi, je vais me réveiller la nuit pour réfléchir à comment on y arrive le plus vite possible. Puis on verra bien quand on est arrivé là pour regarder où toi, tu voulais aller au départ. Mmh. Et en fait, on est d'accord sur le chemin et on fait pacte. Et dans ce pacte-là, on démarre. Quoi. Ensuite, on construit les objectifs et puis on revient en arrière. Et puis, on est à aujourd'hui, on a un objectif pour demain. Mmh. Et on se met en marche. Et une fois qu'on s'est mis en marche, on va…
Et quand on parle de chemin, pour toi, c'est ça de la vision, c'est des étapes clés, genre telle compète, on va aller vers là, tel résultat, etc. Mais c'est aussi dans le quotidien, c'est…
C'est toujours un peu plus complexe que ça, ouais, parce que l'acquisition des compétences, c'est difficile de mesurer le temps. Fixer des choses, c'est dangereux, parce que si tu dis à un athlète, je veux faire ça dans 6 mois, s'il l'a fait plus vite, ça veut dire que tu as mal lu le potentiel de ton athlète. Si au contraire, il n'y arrive pas, il a l'impression qu'il s'est trompé d'entraîneur et qu'il n'est pas avec la bonne personne. Donc en fait, la progression, voilà, on les met les marqueurs chronométriques parce qu'on est dans un sport chronométrique, mais on garde de la marge et puis parfois l'athlète, on triche de manière vertueuse.
Okay.
Me vient une anecdote là, Camille Lacour, on part sur plein de… Il arrive au cercle des nageurs, il est exceptionnel, mais il est que 50e mondial. Mmh. On commence à l'entraîner, il progresse un peu, ça se passe bien. Et puis à un moment donné, je me dis, il faut qu'on fasse mieux. En fait, il y a un truc chez ce garçon qui est différent. Il est très grand, il n'a pas beaucoup de force, mais il est très explosif. Mmh. Il a une super maîtrise de la rythmique. Il y a un truc qui me dérange, il n'a pas de force quand il nage, il s'en plaint. Et on a changé son modèle de nage en mettant ses fesses. On s'est un peu inspiré de certaines notions d'hydrodynamisme, notamment des catamarans qui sont très lourds au départ avant d'accélérer, qui sont sous l'eau, et puis quand ils prennent une certaine vitesse, hop, ça sort, il n'y a qu'une petite partie. Et je ne sais pas, sur cette idée-là, on a dit on va mettre les fesses un peu en bas, on va le mettre dans une autre position, qu'il soit un peu plus enfoncé, qu'il aille chercher de la force, et il me disait mais je ne suis pas bien. Puis un jour, on trouve la bonne position, et il me dit là, j'ai de la force. Alors, il crée plus de résistance, mais il y a beaucoup plus de force. Et on attendait qu'il aille un peu vite, et au moment où il est un peu vite, il essayait de garder un peu cette position, mais il essayait de remonter à ce moment-là. Il ne montait pas tout de suite. Il démarrait sur 3-4 coups de bras, et ensuite il montait. Et quand on a développé ça, on a mis 4 mois à comprendre. D'abord, ça avait l'air un peu… C'était laboratoire recherche et développement catastrophique. Ça sortirait pas un produit qui allait nous faire gagner de l'argent. Et puis, au bout de 4 mois, ça commence à fonctionner. Puis un jour, je vois nager et je commence à prendre des chronos et ça va beaucoup, beaucoup plus vite qu'avant.
Ah, okay.
Et puis, on fait une séquence, on la met en place et je lui dis, va chercher une combinaison dans les vestiaires et puis viens, on va se mettre en condition à faire ça. Et puis ce jour-là, je crois qu'il… Soit il a battu le record du monde, soit il était à quelques centièmes du record du monde à l'entraînement.
Okay.
Et donc, on est deux entraîneurs à prendre le chrono, les poils se dressent, on se regarde tous les deux. Et là, je me dis, je ne peux pas lui dire en fait. On est à 3 mois de la compète, il ne peut pas avoir battu le record du monde. Il peut pas, il reste du boulot quoi.
Mmh.
Et puis surtout, bon, peut-être que c'est un grand soir, mais on n'est jamais sûr. Il y a toujours cette peur du lendemain. Et je lui annonce un temps, 5 dixièmes moins vite. Et il me dit, ah, j'avais l'impression d'aller plus vite, mais c'était pas mal quand même. Il était content parce qu'il avait battu son record personnel. On lui a donné juste assez.
Okay.
Et cet été-là, il est triple champion d'Europe, il bat le record d'Europe, il fait une compétition exceptionnelle. Et là, je ne sais pas s'il le sait ou on lui a dit après, mais ce jour-là, tu avais battu le record.
J'avais posé la question, si tu lui avais dit quand même après coup.
Je ne sais plus.
Au moins pour…
je ne sais plus, ça serait mentir.
Pour plaisir personnel, tu sais.
Il avait nagé tellement vite ce jour-là, il était à 1/100 du record du monde, du 50 d'eau, en tissu, alors que les mecs étaient en textile. Très clairement, c'était ce jour-là, personne n'avait jamais nagé aussi vite de l'histoire. Il avait refait avec 3 ou 4 dixièmes plus vite ce qu'il avait fait à l'entraînement. Et c'était absolument incroyable à regarder. Son 50 mètres est absolument… Le produit fini est absolument incroyable. Alors, est-ce que si on lui avait dit ce temps-là 3 mois avant, est-ce qu'il n'aurait pas été surexcité machin, ou est-ce qu'à un moment donné, ça aurait été trop de données pour l'athlète, genre, je suis trop pressé de voir, et c'est dans 3 mois, il aurait un peu… Là, il est resté un peu serein. Il il avait un peu progressé, donc tu as faim, tu as envie de progresser plus. Mmh. Et voilà, on a fait des choses comme ça. Mmh. Et donc, c'est difficile. C'est aussi quelque chose d'extrêmement dynamique et d'extrêmement vivant. Et moi, de fixer les choses en disant qu'elles vont se passer comme ça, mmh. voilà, c'est aussi se limiter ouais, dans une capacité à le faire plus vite ou alors se bloquer dans une mauvaise estimation et abîmer un peu de la relation qu'on essaye tous les jours mmh. à construire avec elle.
En fait, au final, tout ce que tu me dis tout à l'heure, ça m'intéresse sur les aspects notamment mentaux, tu sais, dans le sport, la préparation mentale, le mental. Alors, je pense que l'entraîneur est quand même en première ligne par rapport à ça. Mais dans ton fonctionnement avec tes athlètes, tu as toujours fonctionné tout seul ou tu as essayé d'avoir aussi des regards extérieurs, notamment sur les aspects mentaux? Parce que je pense que la compétition en tant que telle, tu la maîtrises. Les aspects mentaux, tu as fonctionné seul ou tu as essayé d'avoir aussi de l'accompagnement, on va dire, parce que ça reste un sport de haut niveau où il y a beaucoup d'enjeux de pression, de motivation, de rigueur, etc., qui fait qu'à un moment donné, je pense que l'athlète a toujours des besoins. Comme on fait de la muscu, comme on fait du volume d'entraînement, on a aussi besoin, je pense, de travailler un peu cette partie-là, tu vois, d'une manière ou d'une autre.
Quand je suis arrivé au CNM, mm-hmm. tu me demandais la méthode. Je suis arrivé avec une méthode mm-hmm. et j'ai exigé des choses de la mm-hmm. part du club. J'ai exigé une première chose, c'est que je ne commencerai pas sans un préparateur physique.
Ok. Mm-hmm.
J'avais pas d'assistant entraîneur. Mmh. Il y avait un préparateur physique, Patrick L'Hôpitalier, mmh. qui a travaillé ici 10 ans. Et quand on est parti, il avait quasiment un rôle plus important que le mien au début du programme, ah, au oui. début du projet, parce que par ça, les rendre, on avait dit être athlétique avant d'être aquatique. Ouais, et on voulait choisir des athlètes qui avaient du talent et ajouter une dose d'athlétisme pour ensuite le retransformer en mmh. aquatisme. C'est pas un mot français, mais.
On le comprend.
On le comprend, en aquatique. Et il a fait ce travail-là de manière remarquable. Donc, c'est une des premières conditions. Et très rapidement, un deuxième protagoniste important est venu s'ajouter avant les entraîneurs. C'est Thomas Samut, mm-hmm. qui est aujourd'hui un préparateur mental reconnu en France pour travailler avec beaucoup de sportifs et notamment le plus connu des nageurs français, Léon Marchand. Je crois mm-hmm. qu'il l'aide dans sa préparation aux Jeux Olympiques. Ils ont une mission absolument incroyable, c'est-à-dire faire en sorte que Léon exprime dans mm-hmm. le contexte des JO de 2024. Ouais. Alors qu'il sera peut-être pas Mbappé, c'est peut-être pas Antoine Dupont, c'est peut-être mmh. pas Wembanyama, il sera un des grands mmh. acteurs français du sport de cet été mmh. et il faudra qu'on ait juste le jeune Léon, prodige extraordinaire de mmh. la natation, qui devra oublier tout ça. Et donc là, une des missions de Thomas, c'est ça, mais on a embauché à mi-temps un préparateur mental
okay.
en CDI, dans le club
okay.
en 2006-2007. On est très précurseurs. Mmh. On a travaillé pendant longtemps et donc ils avaient des séances de préparation mentale, des séances de préparation physique, des séances d'entraînement. Il y avait un kiné, on était vraiment quelque chose. Je crois qu'aujourd'hui, le foot, il vient, mais on avait 15 ans d'avance sur eux.
D'accord.
Quand je te disais qu'on avait de l'avance, on avait des athlètes. Et puis, c'était. Alors, ça ne fonctionnait pas avec tout le monde, mais quasi, mais ça permettait d'avoir vraiment. Il y avait des. Voilà, on venait poser des outils. Alors, après, la préparation mentale, tu l'as dit toi-même, l'entraîneur est probablement le premier préparateur mental. Mmh. Pas sûr qu'on ait besoin de guérir quelqu'un qui est en bonne santé, mmh. Mais ça, aujourd'hui, ça fait vraiment partie de la perte.
Bien sûr.
C'est 90% des athlètes mmh. du plateau du niveau, 80% notamment dans les sports individuels en préparateur mental, mmh. notamment pour lutter contre le burn-out et le bien-être et la santé. Et on a fait ça. Et je ne sais pas si c'était une bonne idée ou une mauvaise idée, mais je suis sûr que le fait d'être équipé comme ça, différemment, mmh. a ajouté un côté singulier, a permis aux athlètes d'avoir la sensation d'être dans quelque chose de supérieur.
Ouais,
c'est-à-dire qu'ils avaient un entraîneur qui était dédié pour eux ouais. en natation, ils avaient un préparateur ouais. physique qui était dédié. Ce n'était pas quelqu'un qui avait d'autres activités et qui venait, mmh. c'était un mec qui vivait là ouais, avec nous, qui bossait là, qui mmh. venait dans tous les stages. Ils avaient un préparateur mental, mmh, ressources à dispo quand ils avaient besoin. Et à un moment donné, quand en plus tu es vraiment dans ta perf, quand en plus mmh. tu te sens progresser, quand tu as tous ces outils-là autour, et je crois que là, tu te dis, bah, il reste plus qu'une chose à faire, c'est aller chercher la médaille d'or.
Ouais, bah,
bon, voilà, c'est ce qu'on avait cherché à faire. Mmh. Et je crois que ça a plutôt bien fonctionné. Quoi.
Ouais, je suis d'accord. Et tu vois, le concept même de dire que tu l'as pris en CDI, même à mi-temps, etc., je trouve ça assez incroyable à l'époque, pour le coup. Et quand tu vois que ça tarde encore à venir, ok, on a préparation physique, c'est devenu quand même maintenant la norme, là, toujours, dans les clubs, ça existe toujours. Sur l'aspect mental, c'est encore. Tout le monde en parle, mais c'est pas encore formalisé aussi fort.
Je lui avais dit, si tu. Tu ne seras jamais bien payé par nous. Mm-hmm. Par contre, si tu accompagnes un mec qui devient champion olympique, tu te feras un nom et c'est un domaine où soit avec le sport, soit dans l'entreprise, mm-hmm. tu gagneras beaucoup d'argent. En tout cas, tu gagneras ta vie. On sera le moyen pour toi de développer même ton activité. Et il l'avait bien compris. On avait un préparateur mental qu'on pouvait se permettre de payer parce que justement il acceptait le deal. Et je crois que comme on le fait tous, hein, parce qu'entraîneur de natation, c'est pas entraîneur de football, préparateur physique du Cercle des Nageurs de Marseille, c'est pas préparateur physique du RC Toulon en rugby ou voilà. Allez, voilà. On bossait dur, on bossait beaucoup, on partait beaucoup en stage, on partait une centaine de jours par an. L'athlète de haut niveau peut parfois être ingrat, mais on vivait une aventure absolument extraordinaire entre staff et parfois avec les athlètes.
Bien sûr. Ah, c'est hyper intéressant. Et alors, si on doit avoir un peu des perspectives d'avenir, à la fois toi individuellement, mais aussi le cercle en tant que club, c'est quoi un peu les grands enjeux qui arrivent là ?
Le cercle, il cherche depuis, en tout cas, depuis que j'ai la chance d'avoir une mission sportive au club là, 2005, il cherche à être le plus fort possible chaque année. Il fait des efforts considérables d'investissement au travers de notre modèle économique qui est très particulier. On est sponsorisé par nos membres qui viennent fréquenter le club et qui dépensent une cotisation assez importante. Et on prend une grosse partie de cette cotisation pour le réinvestir dans le sport. Aujourd'hui, il y a eu, je crois, 14 médailles olympiques entre les Jeux olympiques de 2008, 2012, 2016 et 2021. Il y a eu un médaillé olympique qui s'est entraîné ici toute l'année, qui est devenu champion olympique avec la Serbie, Andrija Perlajnovic en waterpolo. En même temps que Florent Manoudou était vice-champion olympique et que Pernille Blume était médaille de bronze. Trois athlètes qui se sont entraînés là toute l'année et qui ont ramené trois médailles. En tout, ça doit faire 14 ou 15. Hein. Et, on a pour volonté de continuer. Je crois que c'est la vocation du club. C'est un lieu de champion qui aujourd'hui sait le faire depuis 20 ans. Le curseur waterpolo est monté depuis 4-5 ans. Le curseur natation est un petit peu descendu en termes de nombre de médailles, mais pas de fonctionnement, pas d'exigence, pas de son rapport au haut niveau elle-même. Il manque juste que sur cette équipe qui est déjà très belle, on vienne ajouter un ou deux talents qui puissent exprimer et rapporter une médaille au club. Voilà, donc l'idée, c'est que le waterpolo gagne un jour la Champions League, c'est la plus belle des compétitions de club, pour avoir gagné tous les trophées. Ça fera du Cercle des Nageurs un endroit où il y aura tout eu en natation et en waterpolo. Un titre olympique, un titre en Champions League, l'Eurocup, des athlètes qualifiés aux Jeux Olympiques par nombre et en natation des titres olympiques, des titres de champion de France. Pour la petite anecdote, on vise et peut-être parce qu'on est les seuls à les compter, mais lors des prochains championnats de France qui vont avoir lieu à la fin du mois en natation au Petit Bassin, on vise la 1000e médaille d'or pour le club dans l'histoire des championnats de France. En sachant que quand on gagne un relais, ben, on a 4 médailles d'or, enfin 4 athlètes médaillés, donc c'est 4 médailles, puisque c'est 4 athlètes différents. Et que si on fait ça, ben, je pense qu'on deviendra soit le premier, soit le deuxième avec les Dauphins du Touec à Toulouse, club à obtenir 1000 médailles d'or au championnat de France. Voilà, donc il y a un long passé, on est sur très beau chapitre qu'on fait durer le plus longtemps de haut. Après, le club a connu des hauts en water polo, puis en natation, a gagné une médaille en 84, a gagné une médaille en 68 aux Jeux Olympiques avec Alain Mosconi, a gagné une médaille en 84 avec Frédéric Delcourt aux Jeux Olympiques. Ensuite, il y avait eu un peu un bas en natation. Donc, il y a plus de 100 qualifiés aux Jeux Olympiques dans l'histoire de l'équipe de France Olympique. Il y a 15 médailles olympiques. Il y a des records du monde d'équipe nationale battues par le club. Voilà, c'est tout ça. Sous la gouvernance de Paul Lessien en 30 ans, qui a eu l'audace de ne jamais rentrer dans le 21e siècle et de ne jamais écouter l'influence des membres qui dit « vous faites trop de sport et on aimerait aussi pouvoir profiter de notre lieu » et qui a toujours défendu le statut numéro un du club, faire de ce club un lieu d'apprentissage et de performance autour de la natation et du waterpolo.
Et ouais, c'est incroyable. Et toi, en tant que Romain Barnier là-dedans, c'est vraiment… Donc t'as plus aller vers le waterpolo ou pas forcément? T'es comment par rapport à ça, toi, individuellement, sur les perspectives justement?
Là, je suis dans une mission qui est celle de direction sportive, dans ce cas, donc, qui se coupe en plusieurs missions, sous-missions. Une, c'est accompagner les entraîneurs de natation dans leur réussite, donc être à la disposition des entraîneurs pour permettre la réussite. C'est-à-dire réfléchir ensemble sur la politique générale qu'on veut mener avec nos athlètes, créer une relation de confiance avec les entraîneurs, créer une relation de confiance avec les athlètes, et aussi une relation de gouvernance, c'est-à-dire faire en sorte que les athlètes aillent dans le chemin que les entraîneurs ont envie, être là pour la cellule d'optimisation de la performance, la cellule élargie 360 pour les aider sur tout ce qui est suivi physio, accompagnement financier, être là aussi, parce qu'une équipe sportive a besoin de dirigeants qui est là et qui montre que le club est derrière le projet. Donc il y a ces temps-là. Il y a le waterpolo où tous les matins j'entraîne l'équipe de waterpolo sur la partie physiologique. Il y a les quelques réunions qu'on fait par semaine pour continuer à construire. On est 3-4 à construire le programme Support physio, qu'est-ce qu'on fait, combien de fois on s'entraîne, ouais. quand est-ce qu'on s'entraîne dur, quand est-ce qu'on relâche. Le head coach, lui, s'occupe vraiment des aspects coopération des équipiers ouais. et technique, tactique, etc. Et puis moi, je l'aide sur toutes les questions qui vont autour, donc ça prend aussi beaucoup de temps et okay. pas mal de temps dévoué à chercher des sponsors, trouver de l'argent, ouais, faire le RP du club, ouais. Un peu pompier, éteindre les feux, rencontrer les parents mécontents, voilà, ouais. et ça occupe un peu les après-midi. Donc le matin, c'est dédié au sport à fond.
Ouais, okay.
L'après-midi, c'est dédié au club. Mm-hmm. Les week-ends, comme demain, je pars à Berlin pour mm-hmm. un match de Champions League en water-polo, seront dédiés pour les compétitions.
Ouais, okay.
Il y a à peu près deux week-ends par mois et il y a des semaines bien remplies.
Ouais,
et ça permet de. Et ça permet de d'avoir un. Une mission qui est absolument extraordinaire ouais, à vivre tous les jours. Ouais. Un peu frustrante parfois parce qu'on n'a ouais. pas l'impression de faire bien sur certaines missions. C'est-à-dire que quand on arrive en match ou en compétition, en natation, et qu'on voit des choses et qu'on ouais. aurait pu avoir un pouvoir d'influence un peu plus fort, il y a parfois quelques frustrations. Ouais. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas être partout. On peut pas, puis surtout, ouais. on n'est pas forcément l'homme de la situation. On pense qu'on aurait pu régler le problème quand ouais. on le voit, mais il aurait aurait-il... j'arrive pas à trouver ma phrase être nécessaire qu'on trouve qu'on ressente le problème avant ouais, parce que c'est toujours facile quand tu arrives en compétition de voir ce qui a pas marché dire tiens j'étais là et moi je sais ouais, faire ouais, et j'aurais ouais. pu corriger ouais, mais il aurait fallu le voir
ouais,
avant ça l'anticiper
okay.
et ça demande de la disponibilité du recul et j'ai pas toujours ça
en tout cas le parcours est assez incroyable et c'est un truc souvent que je me demande tu vois avec les grandes personnalités du sport toi tu as été athlète tu as eu ta reconversion rapide réussie etc tu as eu des Jeux Olympiques en tant que qu'athlète, entraîneur, enfin bref, peu importe. C'est quoi le petit Romain de enfant à 10 ans, s'il devait recevoir un conseil aujourd'hui de Romain ?
L'insupportable.
T'es insupportable ?
Bah ouais,
okay, bah,
parler trop,
alors,
maintenant.
Bah, ce Romain-là, s'il devait recevoir un conseil du Romain aujourd'hui, ce serait quoi le conseil que tu donnerais à toi, jeune, qui va être un futur athlète de très haut niveau et un futur entraîneur olympique ?
Te plains pas alors que t'es heureux de ce que tu vas faire, en fait.
Okay.
Parce que j'avais souvent tendance à invoquer mm-hmm. Des choses négatives pour justement... Et notamment dans le fonctionnement, je disais « Ah non, c'est trop dur. » Pour mmh. justement aller mieux le dépasser ensuite.
Okay.
Et comme j'ai des athlètes qui m'ont fait payer ça en étant comme
ouais,
ça aussi,
okay.
Je pense que j'ai dû faire chier mes entraîneurs plus jeunes. Et je pense que ça a été un peu au détriment de ma perf. Souffrir un peu plus en silence. Et je suis très heureux de nature.
Mmh.
Et donc, en fait, je contrebalance ça parfois par des petites exaspérations qui sont ce point de caractère-là chez moi que j'aime pas trop. Et si j'avais pu le dire à l'enfant, qu'il puisse, je sais pas si ça se corrige, mais… En tout cas, je sais que si on le travaille un peu plus tôt, on a plus de chances.
Ouais.
C'est un peu tard. Alors, voilà. C'est ce que je dirais à cet enfant-là, c'est il y a plus de potentiel que ce que tu penses aussi.
Okay.
Quand j'ai arrêté, je pense qu'il y avait un peu plus. J'étais peut-être pas destiné à être champion olympique du 100 mètres nage libre, mais j'aurais pu aller chercher une finale olympique. J'aurais pu aller chercher une médaille. J'ai fait quatrième au championnat d'Europe en individuel sur le 100 mètres nage libre. J'aurais pu être médaillé ce jour-là.
Mmh.
J'ai fait quatrième au championnat du monde en individuel sur un 200 mètres nage libre en petit bassin à Moscou. J'aurais pu être médaillé, voire même champion du monde ce jour-là. Et j'aurais pu être finaliste olympique et j'aurais pu emmener, j'aurais pu mieux l'idée, mieux diriger notre relais qui en 2003 médaille de bronze au championnat du monde et qui en 2004 finit 6e ou 7e des Jeux olympiques. On aurait pu faire mieux si j'avais été un meilleur leader. À un moment donné, j'étais ni dans ma perf individuelle, ni dans la perf collective. J'ai été dans un entre-deux-mondes qui, je crois, vient de ma personnalité et qui bah, c'est toujours plus facile avec l'approche de la cinquantaine.
Mmh.
Je suis forcément un peu moins con qu'avant, un peu plus raisonné, même si je ne suis pas encore un adulte.
Ok, bah tu es resté un peu fou, ça.
Ouais, j'espère.
C'est ça
j'espère.
Ok, ouais. Et alors, tu as un parcours ultra inspirant et c'est génial d'avoir pu faire cet épisode aujourd'hui ici, je pense. Si tu devais, pour clôturer, te laisser ton temps aussi, nous conseiller une personne qui, toi, t'inspire particulièrement, qui pourrait être potentiellement un prochain invité de ce podcast, en tout cas, on le souhaite. C'est cool, t'as une personnalité actuelle que tu pourrais dire, OK, lui, tu peux lui parler, ça va être incroyable.
Ouais, j'en ai une en tête. Hein. Si jamais tu peux lui parler, ça va être incroyable.
Okay.
Hugo Mola,
ouais.
grand patron du Stade Toulousain, que j'ai eu la chance et le privilège de rencontrer l'année dernière par Fabien Gillot, qui nous l'a amené ici. Il est exactement à cette table, mais à l'intérieur parce que c'était l'hiver. On s'est retrouvé avec Hugo et Fabien et Frédéric Audon, le directeur général du Cercle des Nageurs, qui est un ancien capitaine de l'équipe de France de waterpolo et de l'équipe du CNM. Et on s'est fait un déj à quatre. J'étais triste qu'ils partent tellement c'était passionnant, inspirant, intéressant, complémentaire avec toutes nos quêtes, nos recherches, notre questionnement, nos doutes. C'est un garçon qui a un parcours incroyable, qui notamment avec pas mal d'échecs au départ, la façon dont il raconte. Et aujourd'hui, c'est une success story française incroyable. Il est en charge d'Antoine Dupont. Il était avec moi Il était un des invités des ateliers pour aider les coachs français à réussir à Paris. Et je crois qu'il a, il a fait un petit atelier qui durait 2 heures, l'individu dans le collectif. Il a vu passer une quinzaine ou une vingtaine de coachs. Il leur a parlé pendant 2 heures. Il a bu un café pendant un quart d'heure. Il a fait ça 4 fois pendant la journée. Sur les 80 qu'il a passé, j'ai dû avoir la chance de parler à une dizaine ou une quinzaine de coachs qui étaient tous absolument impressionnés par les qualités de transmission, de son humilité, son envie de justement partager son extraordinaire complexité et aujourd'hui son extraordinaire compétence à manager presque 80 personnes sur un terrain, 25 staff et 60 athlètes. C'est une complexité inouïe, c'est tous les jours, il est en plénière tous les jours face à des athlètes. C'est probablement beaucoup plus dur que ce que font les grands chefs d'entreprise qui délèguent à certaines personnes et qui de temps en temps font des grands colloques. En gros, il est en séminaire tous les jours face à ses athlètes. Et il y a un truc autour de la perf et de sa compréhension des choses et de sa capacité, j'ai l'impression, à continuer à progresser. Alors que ça fait très longtemps qu'il est dans le rugby, qui me fascine. Les 3-4 fois où je l'ai rencontré, et je pense qu'il a des choses impressionnantes à raconter dans la simplicité, dans la façon dont il délivre son message.
Génial. Je vais tâcher de le trouver alors et de lui envoyer un bon message pour qu'il essaie de venir.
S'il a le temps, parce qu'entre la Coupe du Monde maintenant, c'est un garçon qui a un agenda encore plus contraint que le mien, contraint que le mien. Et je te souhaite de réussir parce que.
Je vais me battre pour.
Tu te régalerais.
Je vais me battre pour.